Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager?
Prof, etc.
Christophe Auclair est professeur certifié de mathématiques depuis 1995. Il habite dans Lyon, pas très loin de Sens, où il enseigne dans le plus gros collège REP de l'Académie de Dijon. Christophe est né en Saône-et-Loire, à Charolles, au milieu des vaches, et à l'âge de 6 ans, ses seules préoccupations étaient de jouer dehors avec ses trois frères, faire du vélo et manger des tartines à la confiture de fraises de sa maman. Christophe résume assez bien son métier en le définissant comme un va-et-vient permanent entre les espoirs et les désillusions, entre les réussites et les échecs, entre les joies et les colères. Son côté etc., c'est la création d'applications et de logiciels entièrement gratuits qu'il partage sur son site multimat.net. Et autant vous le dire tout de suite, vous y trouverez une mine d'or pour les élèves du cycle 2 jusqu'à la classe de seconde. Je mettrai le lien vers le site en description de cet épisode, bien sûr. Et cerise sur le gâteau, la plupart des applications fonctionnent sur toutes les plateformes. iOS, Android, Tabwin, Windows et macOS. Christophe Auclair, bonjour.
Bonjour.
J'ai lu dans votre bio que vous adoriez lire des polars et c'est un plaisir que nous partageons. Est-ce que vous avez un conseil de lecture à me donner?
En ce moment, je suis en train de lire le dernier Franck Tilliez, que j'aime beaucoup. Et c'est relativement sympa, même si ça reste toujours un petit peu sanglant. Moi, j'adore à chaque fois les histoires et les personnages. Donc, je recommande.
Et c'est quoi le titre du dernier?
Il était deux fois.
D'accord. Très bien, j'ai pris note et ce sera ma prochaine lecture. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Christophe?
Une impression de grosse chance d'avoir eu une enfance sans problème, sans souci de quelque sorte que ce soit, très détaché finalement de ce qui pouvait se passer dans le monde extérieur. Voilà, j'étais dans un petit village à la campagne et on faisait notre vie avec mes trois frères et très très détaché de ce qui pouvait se passer autour. En fait, on était plus préoccupé de la météo pour savoir si on allait pouvoir aller faire une cabane dans les bois plutôt que d'autres choses peut-être un peu plus graves mais qui nous concernaient pas du tout. Donc une espèce de flottement et d'amusement permanent. En fait, une enfance qu'on pourrait qualifier d'heureuse.
Prof, etc.
Alors, malgré cette bulle que vous décrivez qui fait envie, j'imagine que vous alliez à l'école quand même. À ce sujet, quel est votre meilleur souvenir d'écolier?
Mon meilleur souvenir d'écolier, il n'est pas à l'école. C'est quand, avec un de mes copains de classe en quatrième, on a défié le prof de maths au tennis. Parce que voilà, on savait qu'il jouait au tennis et comme nous, dans mon petit village, on avait un espèce de bout de champ qui faisait office de terrain de tennis et qu'on jouait là-dessus. On s'était dit qu'on allait lui mettre une pilée au tennis et on a fait un double contre le professeur de maths et de SVT et évidemment, on s'est pris une raclée phénoménale. Mais je pense je voulais faire prof depuis déjà un moment, mais je voulais faire prof de cinquième en fait. Et je crois que ça a basculé à partir de ce moment-là. Et puis après, ces échanges avec le prof de maths et que du coup après, j'ai un petit peu changé de direction dans la matière.
Par la suite, vous avez été quel genre d'adolescent?
Eh ben, un peu comme quand j'étais enfant, c'est-à-dire finalement, j'ai traversé l'école de façon un peu banale, plutôt bon élève, sans histoire et parfois sans trop d'intérêt non plus dans certaines matières. Alors intérêt que j'ai découvert plus tard ou pas, selon certaines matières d'ailleurs. Mais ouais, tranquillement aussi, sans faire d'histoire, limite un peu terne avec le recul.
Alors, cette expérience de l'enfance et de l'adolescence, en quoi est-ce qu'elle a influencé votre carrière de prof?
Eh ben, moi j'avais quand même pas mal de facilité à l'école. J'étais plutôt bon élève et par contre j'avais pas mal de copains qui n'étaient pas du tout dans cette situation. Et en fait, je travaillais beaucoup avec eux pour pouvoir essayer de réexpliquer des choses ou faire avec eux tout ça. Je trouvais que c'était relativement sympa d'aider mes copains et je trouvais ça super quand moi j'arrivais à leur faire comprendre un truc qu'ils avaient pas compris en classe parce que je me disais que ben j'étais meilleur que le prof parce qu'avec moi ils avaient compris alors que ils avaient pas compris avec le prof. Donc ça a démarré comme ça, cette envie d'expliquer aux autres et puis de voir dans les yeux de quelqu'un le déclic qui dit ah ça y est j'ai compris comment ça marche. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait.
Alors, je le disais, vous enseignez les mathématiques. Est-ce que c'est vous qui êtes venu aux mathématiques ou est-ce que ce sont les mathématiques qui sont venues à vous?
Ah ben, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt les mathématiques qui sont plus imposées à moi au départ. Voilà, moi je lis beaucoup, le français m'intéressait vachement et j'étais plutôt parti pour faire prof de français, hein. C'est quelque chose aussi loin que je me rappelle. En cinquième, je voulais déjà faire ça. Et puis comme j'étais bon élève, et puis que voilà, maintenant je suis relativement vieux, donc j'étais lycéen à une époque où quand on était bon élève, on vous disait tu vas en S et puis tu te tais. Donc bah, je me suis retrouvé à faire un bac C à l'époque. Et puis voilà, quand j'ai fait mon bac C. Ben, la voie la tracée après c'était le Degas, la fac de sciences, et puis du coup j'ai embrayé sur prof de maths.
Avez-vous un souvenir précis du premier outil numérique que vous avez été amené à utiliser professionnellement?
Oui, alors c'est un super vieux truc qui fonctionnait sous MS-DOS et qui s'appelait LiliMaths. C'était un logiciel qui était développé par des profs de maths de l'Académie de Lille, qui avait l'interface la plus épouvantable que j'ai jamais vue, mais qui, d'un point de vue pédagogique, était monstrueusement intéressant. Et en fait, ça a été moi un espèce de point de départ en disant voilà, c'est des choses comme ça qui sont intéressantes, c'est des choses comme ça qu'il faut faire, mais faut faire quelque chose pour les interfaces parce que c'est pas possibles de présenter des trucs pareils aux élèves. Mais en même temps voilà, c'était il y a plus de 20 ans et bah, on travaillait avec les moyens du bord à l'époque. Évidemment, les logiciels pour développer n'étaient pas les mêmes que maintenant.
Alors, votre site regroupe des applications destinées également au premier degré, y compris au cycle 2. Comment avez-vous été amené à sortir du champ second degré? Vous qui enseignez en collège, est-ce que vous avez collaboré avec des enseignants du premier degré?
Alors, au départ, c'est parti d'une des professeurs des écoles de mon fils qui avait reçu un tableau numérique dans le cadre de, je sais plus comment ça s'appelait, le plan numérique rural ou un truc comme ça. Bref, elle avait été dotée de matériel. Mais voilà, juste de matériel. Donc, elle avait son TBI, mais elle avait rien pour, elle avait pas d'application ou de logiciel spécifique pour utiliser avec. Et donc, on avait travaillé ensemble et j'avais fait deux, trois trucs en mathématiques sur la numération et tout ça. Donc, c'est des outils qu'on peut retrouver sur le site, mais ouais, comme c'est le nouveau site, je sais pas si j'ai tout remis à jour, je sais pas si ça y est encore. Donc ça avait commencé comme ça. Et puis après, moi dans mon travail là, comme je travaille dans le plus gros établissement REP de l'Académie de Dijon, j'ai eu il y a quelques années le poste de coordonnateur du réseau d'éducation prioritaire. Donc, avec cette mission, je suis aussi amené à travailler régulièrement avec les enseignants du premier degré qui nous envoient des élèves par la suite. Donc, ça a permis d'aboutir à la réalisation de certaines applications, notamment pendant le confinement, une application qui était même pas une application de maths, qui était une application de français. Voilà. Puis
Justement.
la troisième, ouais. Puis la troisième raison, c'est aussi que, moi j'aime bien avoir des sixièmes en collège. Les sixièmes, c'est la fin du cycle 3. Et quand on fait des applications sur les tables de multiplication ou des choses comme ça, c'est des trucs qui peuvent être utilisés très tôt par les élèves. Donc, il suffit de s'arranger dans les configurations des exercices pour que des plus petits puissent commencer à utiliser et à s'entraîner sur ces applications-là. C'est pas très difficile finalement d'étendre le champ d'application de ces exerciceurs.
Oui, vous parliez justement de l'application Multimo, je crois, celle qui
Oui,
propose
c'est
des
ça, ouais.
exercices sur les homophones grammaticaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez poursuivre, le développement d'applications non mathématiques, on va dire?
Tout dépend de comment ça va se passer pour la suite, hein. Multimo n'était pas du tout prévu. Je l'ai faite pendant le confinement parce que pour la cordo REP, j'ai des heures qui me sont attribuées, donc des heures de décharge pour aller justement dans les classes, monter des projets et tout ça. Et pendant le confinement, c'était évidemment pas possible que je me déplace et puis je pouvais pas travailler avec les instits parce que tout le monde avait le nez dans le guidon et tout le monde avait bien autre chose à faire que des liaisons CM2 6e ou des choses comme ça. Donc je me suis retrouvé avec un volant-d'heures qu'on m'avait attribué et que je pouvais pas faire. Donc du coup, plutôt que ne rien faire, j'ai décidé d'utiliser ces heures pour essayer de faire une appli qu'on pouvait ensuite transmettre aux enfants pour qu'ils puissent travailler un petit peu. Et j'avais une collègue de français qui me tannait depuis un moment pour qu'on puisse faire une application en français. Elle avait plusieurs idées, on a choisi celle-là, puis après on a travaillé avec. De façon collaborative, j'ai lancé une invite sur Twitter pour qu'on puisse m'aider à faire des phrases type avec les homophones là. On a mis un document partagé et puis en quelques jours, j'ai eu plus de 5000 phrases toutes bien triées, classées par homophone, que moi j'ai pu intégrer après dans l'application. Donc ça a été un travail vraiment à plusieurs. Et là, pour une fois, moi, j'ai fait quasiment uniquement que du développement et pas forcément réfléchir sur le côté pédagogique de la chose, ce qui a été fait par d'autres que moi. Et finalement, c'est aussi appréciable de se répartir le boulot parce qu'elle a été faite relativement vite, cette appli, par rapport au temps que je peux mettre, moi, quand je travaille tout seul.
Alors, enseigner les mathématiques, c'est également transmettre le goût de la recherche, du raisonnement. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'intégrer systématiquement lorsque vous élaborez une application numérique et lorsque vous enseignez, tout simplement?
Alors oui, au maximum, parce que l'activité mathématique, en vrai, elle est là, hein. C'est chercher, tester, essayer de raisonner, établir des trucs. C'est pas juste poser des opérations, parce que sinon ça ferait longtemps que j'aurais changé de métier. Et donc en classe, bien sûr qu'on essaye de faire ça au maximum. Dans les applications, j'essaye aussi. C'est plus difficile. Parce que permettre de tester, d'explorer des pistes, en question développement, c'est quand même sacrément plus dur à faire qu'un simple exerciceur. Mais j'essayais dans certaines applis de proposer des démonstrations guidées pour établir des résultats, d'avoir des problèmes un peu plus ouverts, un peu plus approfondis sur lesquels on peut se casser les dents à partir de simulations ou à partir de situations concrète. Donc j'essaye. C'est pas facile parce que c'est très long à faire. Et de façon surprenante, c'est pas forcément la chose qu'on me réclame le plus. En fait, moi, on me réclame vraiment, vraiment des exerciceurs finalement plutôt basiques qui permettent de s'entraîner sur les notions.
Alors,
En fait, on s'appelle.
ouais, pardon.
Oui, pardon.
Non, je voulais faire une blague, j'allais vous dire, et la proportionnalité alors, quand est-ce qu'elle sort l'application?
Alors, je sais pas. Là, voilà, ça devient compliqué niveau temps. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Ouais.
Je sais pas quand la proportionnalité elle va sortir, mais voilà, on me le demande toujours. Ouais,
Ouais.
ouais, ouais.
Non, pour comprendre la blague, j'invite les auditeurs à aller sur le site et à consulter la foire aux questions. Et vous comprendrez pourquoi ça nous a fait rigoler. Pour nous faire saliver un peu, quels sont les prochains registres dans lesquels vos prochaines applications vont proposer des activités aux élèves?
Alors, encore une fois, tout dépend de comment la situation évolue. En fait, là, j'ai plus d'heures pour faire des applis puisque l'Académie de Dijon a abandonné le projet, en fait. Donc, théoriquement, il ne se passe plus rien parce que faute de crédit, apparemment, on n'a pas reconduit la mission. Donc j'ai plus d'heures du tout et donc je peux continuer comme ça tout seul. Moi j'ai commencé tout seul, je pourrais continuer tout seul. Le problème c'est que le développement sur tablette c'est hyper long. Enfin en tout cas pour moi c'est hyper long parce que voilà c'est pas mon métier, j'y passe beaucoup de temps et en plus d'un temps complet, s'il faut que je développe les applis, ça veut dire que je fais une heure par-ci par-là de temps en temps quand j'ai un moment de libre et c'est carrément pas efficace parce que le temps qu'on se replante dans le code, qu'on essaye de retrouver où on était la dernière fois, ben en général, l'heure, elle est quasiment finie. Donc, ça n'avance pas. Là, par contre, j'ai été contacté par une assoce en Belgique qui souhaite monter un projet européen où je m'occuperai de la partie française et où l'idée, ce serait de développer toujours des applications en maths. Pour une utilisation soit en ligne, soit hors ligne. Et bon, j'ai déjà été contacté par plusieurs éditeurs, mais à chaque fois, on me proposait de travailler en plus de mon temps plein. Et puis, pour développer des trucs qui seraient refacturés après à l'éducation nationale ou qui seraient payants pour les élèves. Et moi, le truc, c'est que, enfin, voilà, pour bosser en REP avec des enfants qui n'ont pas une thune, je refuse qu'en plus ils soient obligés de payer des applications pour pouvoir travailler, s'entraîner comme les autres. Donc moi, l'idée, c'est que ça doit être gratuit. Et voilà, cette association belge, elle, propose de me rémunérer à travers un projet européen, mais sous forme d'une décharge, donc de me donner du temps pour que moi, je puisse continuer à développer des applications. Le deal, elles seront gratuites et open source. Donc, moi, je suis parti pour ce projet-là parce que ça me plaît. Après, c'est un projet européen, il y a plein de trucs à monter, tout ça, et je sais pas du tout si ça va aboutir ou pas pour la rentrée prochaine. Et là, on serait sur des applis qui ressembleraient à ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, mais en accentuant un petit peu le côté ludique, plus sous forme de petits jeux, donc peut-être plus dans le genre de défi table où on joue à deux, des choses comme ça. Et avec un module qui sera peut-être développé, pas l'année prochaine, mais après, si ça se fait, et qui permettra à l'enseignant de récupérer les scores des élèves et puis d'envoyer aux élèves des exercices à faire déjà préparamétrés, en fait.
En remédiation.
Voilà, par exemple, voilà. Le professeur récupère des résultats, voit ce que l'élève a fait et peut le rediriger vers des exercices particuliers que lui n'aurait pas pu faire, n'aurait pas forcément fait comme ça de prime abord. Donc ça c'est à l'étude, mais je ne sais pas. Sinon, là moi je travaille toujours depuis un bon moment sur une application qu'on m'a beaucoup demandé aussi qui concerne les fractions, donc la simplification de fractions et puis tout ce qui est opération avec les fractions et tout ça pareil en exerciceur. Donc c'est le gros problème en fait avec les mathématiques maintenant, hein. On a de moins en moins de temps à y consacrer. Les élèves y consacrent eux-mêmes de moins en moins de temps à l'extérieur de la classe. Donc tout ce qui est de l'ordre du procédural et puis de l'entraînement, eh ben on le fait beaucoup moins qu'avant. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les connaissances, si on les applique pas, si on les répète pas, ben elles s'ancrent pas et puis on oublie tout. Donc il faut absolument qu'on puisse s'entraîner. Et les exerciceurs, ils sont là pour ça. En gros, on va se dire que c'est juste peut-être un peu moins pénible de réviser les tables sur sa tablette ou sur son téléphone plutôt que sur une feuille de papier. On fait le même travail, hein. C'est pas, il y a strictement rien d'extraordinaire. C'est juste qu'en essayant de varier les supports et puis en proposant à l'élève quelque chose qui lui va lui sembler plus ludique ou plus joli à voir qu'une feuille de papier avec des exercices dessus, qui va peut-être se plonger un peu plus dans l'entraînement et qui va pouvoir pratiquer, et puis que les connaissances vont s'ancrer, hein. C'est notre gros problème en mathématiques.
Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison, Christophe?
Quand est-ce que j'ai ri aux larmes pour la dernière fois? Alors ça, c'est une bonne question. Je crois que c'était une réflexion d'un élève en début d'année. Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai un élève qui est très vif à l'oral, qui participe beaucoup, mais qui a un sérieux problème de vocabulaire et qui mélange tout le temps les mots. Donc, c'est lui qui m'a déjà parlé de triangle équatorial ou des trucs comme ça. Et il m'en a fait une comme ça en début d'année où j'étais mort de rire. Mais voilà, j'aurais dû les noter à chaque fois. Je l'ai pas fait. C'est une erreur, mais parce que j'en ai régulièrement des comme ça.
Le triangle équatorial, déjà, ça vaut son pesant d'or.
Ben celle-là, elle est pas mal, mais c'est pas celle-là. Il a fait pire, mais bon, peut-être ça me reviendra.
Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel?
Alors moi, mes moments préférés dans la journée au collège, je ne sais pas si c'est de bon ton de le dire, mais en général, c'est plutôt en récré, quand on se retrouve avec les collègues à la clope. Alors même ceux qui fument pas, mais c'est juste pour aller prendre l'air dehors et puis de papoter, puis d'évacuer un peu la pression, ou de parler un peu des gamins qu'on a eu avant, qu'on va voir après, ou de parler carrément d'autres choses aussi. Et voilà, enfin moi j'ai la chance de travailler en REP, dans la mesure où en général dans ces établissements-là les équipes sont sont plutôt soudés parce que ben parce qu'on n'a pas trop le choix et qu'il faut bien. Et donc du coup voilà, au fur et à mesure des années, j'ai des collègues qui sont devenus de véritables amis et on a toujours plaisir à se retrouver, même si c'est 5 10 minutes à une récréation pour papoter et refaire le monde.
Prof, etc.
Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous?
C'est compliqué aussi ça comme question. Quelle valeur a le plus de sens? Je sais pas. Moi, mon truc, c'est vraiment d'aider les autres à réussir et à exprimer leur potentiel. Alors, je sais pas comment ça s'appelle en un seul mot, ce truc-là, mais voilà, l'entraide ou je sais pas. Voilà, aider les autres à réussir quand on peut, ou alors aider les autres à faire du mieux qu'ils peuvent faire. Voilà.
Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot enseigner?
Fallait me prévenir que ça allait être si difficile que ça comme interview. Alors, quel mot va compléter enseigner? Eh ben, je veux dire le même, je veux dire aider.
Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier?
Peut-être le fait d'être hyper têtu. Donc du coup, en général, je lâche pas jusqu'à ce que j'arrive à ce que je veux. Donc je m'entête pour les élèves qui sont en échec scolaire ou qui sont en refus de travail. Je me suis entêté pour apprendre à développer des applis parce que c'était quand même un pari très risqué au départ de la part de mon inspectrice, hein, qui m'a déchargé à mi-temps quand je lui ai dit, ben voilà, il y a eu un plan numérique pour les établissements, on a des tablettes, mais on n'a pas de logiciel, c'est complètement crétin, donc je vais en faire. Puis elle m'a dit, bon ben on y va, sauf que j'avais jamais développé d'appli sur tablette, j'étais pas sûr d'y arriver. Et bon ben je vous cache pas que ça a été compliqué au départ, mais voilà, j'ai pas lâché le morceau parce que je me disais il faut faire quelque chose. Et ouais, je suis relativement têtu en fait comme gars.
Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui?
Ah, je me mettrais dans la peau d'un musicien, je crois. Parce que autant j'aime bien rien laisser tomber, autant j'essaye de jouer de la basse depuis de nombreuses années. Et voilà, j'ai beau m'acharner, ça fait pas tout à fait pareil. Alors je crois que je me mettrais dans la peau de Marcus Miller, voilà, qui est un bassiste de génie, parce que je me dis que du coup, au moins un jour, je jouerai aussi bien que lui, même si ça dure que 24 heures, effectivement.
Pour rester dans la musique, comment définissez-vous le succès?
Je sais pas comment je pourrais définir le succès. Le succès, c'est quelque chose de très relatif et puis sans doute de très éphémère. Je sais pas. Et puis, je sais pas, le succès par rapport aux élèves, arriver à les faire réussir, ça pourrait être un succès. Arriver à faire qu'ils repartent en collège, du collège sans trop détester les maths, ou avoir un élève qui arrive et qui dit, moi les maths j'aime pas ça, j'y comprends rien, et puis que quand ils repartent, ils disent, ah bah finalement il y a des trucs sympas. Voilà, je sais pas, moi mon succès, ça pourrait être ça, mais c'est hyper difficile à atteindre.
Prof, etc.
Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années?
Je crois que en tant qu'enseignant, je pense que la première chose que je pourrais nous souhaiter, c'est qu'on nous foute un petit peu la paix et puis qu'on nous laisse travailler un peu tranquillement, sans enquiller des réformes et des changements tous les 6 mois, qu'on nous laisse le temps d'évaluer ce qu'on fait avec nos élèves, de voir ce qui marche pas, ce qu'on garde pas, et qu'on nous fasse pas changer sans concertation régulièrement, qu'on nous mette pas la pression ou qu'on mette pas la pression aux élèves avec les enquêtes Teams, machin et tout ça, où on est sans arrêt évalué, comparé, et que finalement on a pas mal de choses qui perdent du sens. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on puisse retravailler un petit peu plus sereinement, dans de bonnes conditions. C'est vrai que plus ça va, plus ça devient compliqué, hein, même en niveau moyen financier. On a de moins en moins d'argent dans les établissements, on a de moins en moins de marge de manœuvre. À côté, on nous en demande toujours plus. C'est vrai que ça aide pas et que ça en décourage plus d'un. Voilà. D'une manière générale, il y aurait ça. Et puis, de façon très égoïste, pour moi, ce que je pourrais me souhaiter pendant les 2 années, c'est ben d'arriver à poursuivre ce boulot sur les applications, parce que moi ça me plaît bien de le faire, parce que ça me semble important, parce que ça correspond à une véritable demande des collègues, et puis parce que ça comble un vide, hein, puisque quand on regarde sur les différents stores des applications pédagogiques qui sont gratuites, dans lesquelles il n'y a pas de pub et qui sont en français, eh ben on se rend compte qu'on a vite fait le tour, hein. C'est aussi je pense une bonne part du succès de mes applications, hein. Elles sont beaucoup utilisées, pas parce qu'elles sont merveilleuses, elles sont beaucoup utilisées aussi notamment parce que ben, y a pas grand chose d'autre et qu'il y a très peu d'alternatives à ces applications-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir enfin continuer et puis peut-être un jour faire une application sur la proportionnalité pour que tout le monde soit content.
Merci Christophe de vous être rendu disponible pour Prof, etc. Merci.
Avec grand plaisir.
Je mettrai bien sûr le lien sur votre site en description de cet épisode. Et si vous l'avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur les plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcast, Deezer par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles et des commentaires sur iTunes, ça m'aide beaucoup. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.